Europe 1, il est 6h.
There is a change in mindset that's taking place. It makes me feel optimistic.
La parole de Barack Obama 9 jours après la mort de George Floyd. Un changement majeur pour la société américaine, dit l'ancien président. La police française est-elle raciste après la grande manifestation de mardi soir? Nous avons voulu connaître la réalité du terrain, chiffres à l'appui. Didier Raoult va-t-il s'inviter dans la campagne des municipales à Marseille? Le médiatique scientifique est courtisé par Martine Vassal, la candidate Les Républicains, elle-même soignée à l'hydroxychloroquine.
C'est surtout une réalité d'avoir Didier Raoult sur Marseille. Et c'est une grande fierté. Et c'est vrai que pour moi, Didier Raoult, c'est mon héros.
Dans ce journal, comment aider les jeunes à affronter la crise économique? Exécutifs et partenaires sociaux se penchent aujourd'hui sur l'apprentissage. Et puis, qu'avez-vous acheté pendant le confinement que vous n'achetiez pas d'habitude? On vous révèle les produits stars de ce printemps singulier.
On a les produits, les allumes barbecue par exemple, les glaces qui ont été en très très forte hausse et de manière plus marquée dans certains départements en connaissant une météo estivale beaucoup plus tôt que d'habitude.
Votre invité à 6h40, Mathieu.
Aurélien Cadieu, président de l'Association nationale des apprentis de France à 6h40, donc sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
De nouvelles manifestations hier soir en France contre les brutalités policières. Des centaines de personnes à Montpellier, à Toulouse. Écho au mouvement aux États-Unis 9 jours après la mort de George Floyd, mais aussi en hommage à Adama Traoré, jeune homme noir décédé il y a 4 ans à la suite de son interpellation en région parisienne.
Ses proches sont persuadés que les gendarmes sont en cause et justement, nous avons voulu savoir, y a-t-il réellement des violences racistes de la part de la police française? Quels sont les chiffres? Éclairage avec Guillaume Biais.
Il y a très peu d'enquêtes ouvertes par la justice pour discrimination ou racisme contre des policiers. L'an dernier, l'IGPN a été saisi une 30aine de fois, contre 46 enquêtes en 2018. On rappelle qu'au total, il y a 146 000 policiers. Évidemment, toutes les victimes d'insultes racistes ne vont pas systématiquement porter plainte, surtout quand ce sont des délinquants. Mais aujourd'hui, les policiers sont de plus en plus filmés en intervention et si les propos racistes de l'un d'eux sont diffusés, il y a une enquête ouverte. Exemple, fin avril, un policier des Hauts-de-Seine avait qualifié de bico un jeune fuyard repêché dans la Seine. Propos filmés par un témoin, policier suspendu. C'est aussi pour cela que la police s'équipe de caméras piétons pour filmer les contrôles d'identité, par exemple, éviter les abus des deux côté, lutter contre les contrôles aux faciès pour lesquels la Cour de cassation a condamné la France il y a 4 ans. Malgré tout, d'après une étude nationale publiée par le Défenseur des droits en 2017, les jeunes hommes, je cite, perçus comme noirs ou arabes, sont en moyenne 20 fois plus contrôlés que les autres, principalement en zone urbaine.
Et face aux manifestations, le gouvernement joue l'apaisement. Christophe Castaner promet une sanction pour chaque faute ou mot raciste dans la police.
Aux États-Unis, la mort de George Floyd requalifiée en meurtre non prémédité. Ce n'est plus homicide involontaire pour le policier qui s'est agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de 8 minutes. Accusation plus grave, il risque désormais 40 ans de prison.
Les 3 autres agents impliqués sont aussi poursuivis désormais pour complicité. Cela répond aux revendications des manifestants qui s'expriment toujours dans les rues, mais retour à un calme relatif. Et ce matin, pour la première fois depuis le début des troubles, la parole de Barack Obama. Ce mouvement de contestation marquera l'histoire américaine, dit l'ancien président.
J'entends des gens dire que ça leur rappelle les années 60, le chaos, la discorde, la méfiance. Je connais assez de cette histoire pour dire qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Regardez ces manifestations, elles sont beaucoup plus représentatives de la diversité de l'Amérique. Il n'y avait pas cette large coalition dans les années 60. Il y a un changement de mentalité qui est en train de se produire. Une reconnaissance grandissante que nous pouvons faire mieux. C'est un résultat direct de l'activisme de tellement de jeunes gens à travers le pays. Ça me rend optimiste. Ça me donne le sentiment que ce pays va s'améliorer.
Et rassemblement contre le racisme aussi hier à Londres, Helsinki ou encore Stockholm.
Europe 1, il est 6h04.
Volte-face de l'Organisation mondiale de la santé. Elle annonce la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine 9 jours après les avoir suspendus. Après que la prestigieuse revue médicale The Lancet a émis des doutes sur sa propre étude publiée le mois dernier, elle décrivait une molécule pas efficace, voire néfaste contre le coronavirus.
Une molécule défendue par le professeur marseillais Didier Raoult, vous le savez, qui nie d'ailleurs en avoir administré à certains de ses patients sans leur consentement. L'infectiologue a été signalé à la justice.
Et en attendant que la justice se prononce, le très médiatique scientifique pourrait bien s'inviter dans le deuxième tour des municipales à Marseille, notamment courtisé par Martine Vassal, la candidate Les Républicains, toujours en course. Elle-même a été soignée à l'hydroxychloroquine pendant l'épidémie. Nathalie Chevance.
Le professeur Raoult dit ne pas faire de politique, mais à 3 semaines du deuxième tour des municipales, il reçoit à l'IHU Martine Vassal, candidate LR, bien conscient de son poids médiatique.
Vous avez remarqué, je suis sur aucune liste et vous imaginez bien que si je voulais être sur une liste, je serais facilement jusqu'à demander.
Mais pour l'instant, ce que demande le professeur Raoult, c'est plus de décentralisation pour faire fonctionner la médecine et davantage de poids pour les collectivités territoriales.
Leur lucidité sur les besoins de la population, je pense, est bien meilleure que celle des gens qui sont à Paris, qui, en plus de ça, sont de passage. Un ministre de la Santé, en moyenne, ça dure 2 ans et demi. Donc le temps que vous commenciez à discuter, il y en a un autre qui vient et puis il change complètement d'avis. Et la seule chose d'impostable, c'est les collectivités territoriales. Et qui plus est, c'est eux qui connaissent le mieux la situation.
Martine Vassal, présidente de la métropole et du département Jubile, elle qui a été soignée à l'hydroxychloroquine.
C'est surtout une réalité d'avoir du diarrhée sur Marseille et c'est une grande fierté. Et on va continuer à aider le monde de la santé. Et c'est vrai que pour moi, Didier Raoult, c'est mon héros.
Sachant que la candidate LR a financé à hauteur de 76 millions d'euros les hôpitaux marseillais, dont dépend l'IHU. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
L'emploi, et surtout l'emploi des jeunes, au menu d'une réunion cet après-midi à l'Élysée, syndicats et patronats reçus par Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Inquiétude notamment du côté de l'apprentissage en plein essor ces derniers mois. Peur sur la rentrée, les offres en entreprise pour ces jeunes pourraient s'effondrer de 20 à 40% en raison de trésoreries exsangues. Le gouvernement réfléchit à un plan de sauvetage pour la filière. Jean-Rémy Baudeau.
Les jeunes seront les premières victimes du choc économique. Ce constat fait par un ministre est confirmé par une récente étude internationale. Un jeune sur 6 a arrêté de travailler depuis l'apparition du Covid-19. Parmi les préoccupations de l'exécutif, les diplômés qui arrivent sur un marché du travail bloqué, les jeunes en fin de CDD ou dont les contrats ne sont pas renouvelés, mais aussi l'apprentissage qui, avant la crise, battait des records. Sauf que le temps presse. 400 000 jeunes apprentis doivent commencer en septembre. Si on ne fait rien, seuls 150 000 pourront le faire, s'alarme un ministre. Et le gouvernement d'appeler les partenaires sociaux à prendre leurs responsabilités. La réponse ne peut pas venir que de nous, prévient une proche du président. Mais de quel levier dispose réellement le gouvernement? Un ministre imagine. On a beaucoup aidé financièrement les entreprises. Il faut qu'en contrepartie, les jeunes soient prioritaires pour l'accès à l'emploi.
Donnez votre sang, l'appel ce matin sur Europe 1 de l'établissement français du sang. Afflux de donneurs au début du confinement, on vous l'avait raconté dans ce journal. Mais aujourd'hui, eh bien, ces stocks sont presque tous utilisés.
Bonjour François Charpentier.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'établissement français du sang. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Quel est le problème en ce moment? Pourquoi les stocks ont-ils du mal à être réapprovisionnés?
Alors, ça illustre parfaitement ce qu'on dit habituellement. Les produits sanguins ont une durée de vie extrêmement courte. Donc, c'est vrai que, presque paradoxalement, pendant le confinement, nos stocks s'est plutôt pas trop mal comporté en raison également d'une, comment dirais-je, d'une baisse importante de la consommation liée à la moindre activité médicale. Cette consommation, depuis le déconfinement, a repris. Elle a retrouvé aujourd'hui des niveaux absolument normaux, assez importants, comme quoi, là, même si l'activité hospitalière n'a pas repris dans toutes ces dimensions, les dimensions qui nécessitent les produits sanguins, elles, ça dit bien que les produits sanguins sont absolument indispensables. On ne peut pas s'en passer. Or, notre collecte aujourd'hui est freinée par 2 facteurs. Le premier, c'est qu'on a perdu des pans entiers de notre territoire de collecte, si j'ose parler ainsi. Hein, je veux parler notamment, mais pas que, des collectes dans le milieu de l'enseignement et dans le milieu de l'entreprise. Hein, en Ile-de-France, les collectes en entreprise, c'est 30% de la collecte, de la ressource en produits sanguins. Or, les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui nous accueillir et quand bien même elles voudraient recommencer, le télétravail toujours présent fait que notre collecte est entravée. Et sur les collectes qui restent aujourd'hui, eh bien, nous avons toujours, bien sûr, la sécurité des donneurs est importante pour nous, mais nous avons quand même rajouté des mesures barrières qui contribuent à la ralentir à cette collecte.
Alors vous dites
voilà, donc notre stock baisse toutes les semaines de quelque chose comme 5000 produits et ça va très très vite.
Alors vous dites venez donner, mais peut-être pas tous dès ce matin parce que les dons doivent être échelonnés, hein, le sens, vous le disiez, se périme entre guillemets rapidement.
C'est exactement cela. C'est toujours du mal quand on a toujours du mal à bien passer ce message. Hein. Il n'est pas nécessaire qu'on ait un afflux massif aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Il faut qu'on ait un afflux important. On s'apprête bien sûr à gérer un afflux plus important que les autres avec peut-être de temps en temps un petit peu d'attente dont on s'excuse et on fait tout pour éviter ça. On y compris pour certaines collectes, on peut prendre des rendez-vous. Il faut aller sur notre site dondusang.net. Mais il est surtout important de continuer à donner dans la durée et ce, pour nous porter jusqu'à la rentrée du mois de septembre, le temps qu'on recompositionne, qu'on reconfigure notre offre de collecte par rapport aux facteurs dont je parlais tout à l'heure, notre perte de territoire.
Merci François Charpentier, porte-parole de l'établissement français du sang. Merci d'avoir été ce matin en direct l'invité du journal de 6 heures d'Europe 1.
Et j'ajoute la journée mondiale des donneurs de sang qui aura lieu dans 10 jours, le 14 juin, des manifestations pour remercier les donneurs et rappeler l'importance des dons de sang.
Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite de votre journal, les gants de ménage, la farine, mais aussi les allumes barbecue. On vous révèle les produits stars du confinement. A tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h12, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
55 jours de confinement et sans doute pendant cette période si particulière, vos habitudes ont changé, notamment au supermarché. Certains produits ont connu une forte augmentation de vente.
On vous révèle ce matin les produits stars du confinement. C'est une étude du cabinet de consommation Nielsen pour le journal du net. On constate de nombreuses différences selon les départements, Aurélien Fleureau.
Aucun doute, les Français ont été propres pendant les 8 semaines de confinement. En haut du top 10 des produits les plus surconsommés, on retrouve les gants de ménage et les savons dans plus de 90% des départements. Les Français ont aussi passé beaucoup de temps en cuisine, cela se confirme dans les chiffres. Le produit phare, évidemment, c'est la farine, partout, mais surtout en Loire-Atlantique. Et puis, il y a quelques spécificités locales. Certains produits ont été surconsommés uniquement dans 2 ou 3 départements. Conséquence des températures douces, a constaté Sébastien Monard, porte-parole du cabinet Nielsen, spécialiste de la consommation.
On a des produits, les allumes barbecue, par exemple, les glaces, qui ont été en très très forte hausse et de manière plus marquée dans certains départements, en connaissant une météo estivale beaucoup plus tôt que d'habitude, l'impact a pu être encore plus fort dans ces départements-là.
Voilà pourquoi les saucisses ont été surconsommées dans les Vosges et le Haut-Rhin. Pas de pâtes dans ce palmarès parce que le pic d'achat a eu lieu pendant les 3 semaines qui ont précédé le confinement. Les Français avaient donc déjà beaucoup stocké. Et puis pour trinquer avec modération évidemment, mais un peu plus que d'habitude, le gin a été la boisson la plus surconsommée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales.
Rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007 au Portugal à l'âge de 3 ans et demi. La police allemande enquête sur un nouveau suspect, un pédophile multirécidiviste déjà incarcéré en Allemagne pour abus sexuels sur enfants.
L'Allemagne qui, par ailleurs, annonce un plan de relance historique pour son économie, 130 milliards d'euros sur 2 ans, notamment de nouvelles aides aux entreprises et pour les familles.
Et puis ce match-là n'est pas terminé. Le Conseil d'État étudie aujourd'hui les requêtes de Lyon, Toulouse et Amiens, 3 clubs de première division qui contestent les récentes décisions de la Ligue de foot. L'arrêt du championnat en raison de l'épidémie, les classements de la Ligue 1 figés en cours de saison. Un classement qui prive Lyon de Coupe d'Europe la saison prochaine et qui envoie Amiens et Toulouse en Ligue 2. Christophe Lamar.
C'est un peu comme une campagne présidentielle. Aucun d'entre nous ne dira qu'il part battu d'avance. Du côté de la Ligue comme du côté des clubs, chacun tente de se convaincre qu'il va l'emporter. Hormis Olivier Sadran, le président de Toulouse, les principaux acteurs de ce feuilleton judiciaire et sportif seront là. Jean-Michel Aulas, bien sûr, mais aussi Bernard Johannin, le dirigeant d'Amiens, se bat pour ne pas descendre en Ligue 2 avec une idée en tête. Rien n'est encore joué.
Je suis dans mon match. Je vais essayer de le jouer le mieux possible avec nos moyens juridiques qui sont solides. Ce combat, c'est un match que l'on joue. Et quand vous commencez un match, il faut toujours avoir l'humilité de savoir que vous pouvez le gagner, mais que vous pouvez le perdre aussi.
Amiens comme Toulouse ne contestent pas l'arrêt du championnat, mais le classement final qui les condamne à la relégation. Lyon, au contraire, estime que la décision de tout arrêter fut une erreur. L'audience commencera à 14h et selon une source proche du dossier, les débats pourraient durer plusieurs heures.
Et décision du Conseil d'État attendue dans le courant de la semaine prochaine.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 6h sur Europe 1. À 6h30, nous retrouverons François Geffrier pour une nouvelle édition. Europe 1.